Bonjour à toutes et tous, nous allons vous présenter Psy-Citoyen, une émission créée par des adhérents du GEM Le Nouveau Cap, avec Emmanuel.
Bonjour à tous.
Pascal.
Bonjour.
Lily.
Salut.
Olivier.
Bonjour.
Et Laurent.
Bonjour.
Et Julie à la technique, une émission qui portera sur les discriminations. Notre émission passe sur GTFM 91.2. Si nous avons été absents durant un an, c'est parce que nous avons créé des podcasts à écouter attentivement sur le site du GEM Le Nouveau Cap. Ça s'appelle « Pendant que les psychoses », ça concerne des témoignages de gens en situation de troubles psychiques. Aujourd'hui, nous allons parler durant une heure des discriminations, celles que nous avons subies et celles que d'autres ont subies aussi, notamment NOSIG, une association qui lutte pour les droits LGBTQIA+. Nous allons écouter le texte, comme d'habitude, le magnifique texte d'Emmanuel à écouter attentivement.
Rebonjour. Les beaux, les moches, les normaux, les divergents, les hétérosexuels, les queers, population coupée en deux par la discrimination. Thème de l'émission, mais dont les avilis usent des slogans pour contrer leurs détracteurs. T'es moche, noir, psychotique, homosexuel, alors ça va pas être facile. Mais faudrait voir à se révolter, sinon les règles vont subsister. Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands, il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux, il y aura des hommes moches, et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Et puis il a ajouté, il y en aura même qui seront noirs, petits et moches, et pour eux, ce sera très dur. Caricature Coluche. Si les différences sociales peuvent être source d'opposition, elles sont aussi l'occasion de rassembler. La paix est un instant entre deux guerres. Pour faire valoir ses droits et espérer vivre quelques moments de tranquillité entre gens qui s'aiment, il va donc falloir se battre. Les armes ne seront pas létales, mais les idées peuvent détruire les préjugés, mourir pour ces idées, mais de mort lente et solidaire. Cette émission est animée par une équipe en souffrance psychique. Pour certains, nous sommes les fous de Saint-Jacques, ceux qu'on a laissés sortir, mais aussi les déchaînés qui osent quand tout le monde se retient. La réalité du quotidien est parfois un conflit avec soi-même, un contact difficile avec ses propres ressentis. Lacan a dit « Tout le monde est fou ». Alors, voici le slogan de l'émission « Tout le monde est fou ». Les fous sont comme tout le monde, seuls et en quête d'affinité. Mes difficultés sont reconnues comme le serpent qui est entré dans toutes les têtes. L'écart entre les gens, source de malaise, le sentiment d'étrangeté prend le pas sur le rassemblement. Les hétéronormés excluent ceux qui sont en dehors de leur hétérosexualité normale, sans considération pour les homos, bi, trans et les 16 orientations sexuelles et amoureuses référencées dans un article du magazine Têtu disponible sur Internet. Le terme queer, qui les désigne, est bienvenu pour exprimer la lutte des personnes discriminées. Queer, c'était le mot pour désigner les déviants, signifier ce qui est bizarre, étrange, malade ou anormal, en parlant de ceux qui ne sont pas hétérosexuels. Puis le renversement est arrivé. Queer a été inversé et est devenu synonyme spécial pour la minorité homosexuelle. La communauté a pris son envol et les marches des fiertés existent aujourd'hui dans de nombreux pays à travers le monde pour libérer les orientations sexuelles et les identités de genre. Si je suis coincé par le jugement qui fait de moi un schizophrène exclu des normes, me disant que je ne vaux rien parce que je ne correspond à aucune valeur établie, puissais-je trouver une échappatoire en valorisant ma propre folie comme l'ont célébré Antonin Artaud, voire Philippe Cadic, ou en marchant, comme je le fais déjà, avec le groupe d'entraide mutuelle et en m'entourant de possibles. Mon déséquilibre s'agite parfois dans l'effroi et la dissociation. Personne n'en veut, c'est désolant. La folle du logis écartée des normes. Mais elle veut encore être unie pour éviter les cauchemars de l'auto-stigmatisation fréquentes dans les angoisses des schizophrènes.
Bravo.
Très beau texte.
Alors, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole suite au texte d'Emmanuel ?
Je veux juste te dire ce que c'était la discrimination. C'est-à-dire que souvent, c'est des supérieurs qui malmènent des inférieurs. En fait, dans la tête des gens, il y a des inférieurs et des supérieurs, parce qu'en réalité, c'est Obama qui a dit ça. En fait, on est tous égaux, quoi. Et donc,
il n'y a pas que lui.
Hein?
Il n'y a pas que lui, Emmanuel.
Ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai lu ça tout de suite, là, en fait, il n'y a pas longtemps, là. Donc, c'est pour ça que j'en parle, quoi.
Ouais, puis il était dans le studio il y a.
Il passait faire une visite. Il n'a pas voulu parler.
Moi, je pense au texte de Foucault sur l'histoire de la sexualité, qui explique le regard de l'époque sur l'homosexualité, qui était bien comprise par les intellectuels de l'époque.
Ah, bah, d'ailleurs, les homosexuels, pendant très longtemps, on a considéré que c'était une maladie. Hein, ouais.
Jusqu'en 92, je crois.
Ouais. C'est très, 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 très tard.
Avant, c'était un délit.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et dans d'autres pays, ils sont menacés de mort, je crois.
Bah, celui qui a fait les prémices de l'intelligence artificielle, y a eu un film sur lui, quoi, et il était considéré comme...
Oui, je vois.
Turing. Et donc... Ouais, il était homosexuel et en fait on l'a empêché, donc on lui a mis des cachetons pour soi-disant guérir, quoi. Alors qu'on guérit pas de quelque chose qu'on ressent au fond de nous.
Une castration chimique, en fait.
Et il a, dans le film, en fait, il avait gardé, en fait, je sais plus, comme considéré que c'était un ami, l'intelligence artificielle qu'il avait faite, quoi. C'est avec laquelle il pouvait parler, quoi.
Il avait décodé les codes nazis.
C'est ça, ouais.
Et ça avait permis de gagner la guerre.
Et d'ailleurs, en fait, tous les codes étaient terminés par Hitler. C'est comme ça qu'il a réussi à...
D'accord. C'est un super film.
Il y a beaucoup de gens célèbres qui ont permis peut-être de faire avancer la cause, quoi.
Je pense aussi à une chose qui a un peu rétabli les choses, c'est un mariage pour tous.
Oui. Et d'ailleurs en Irlande, ils étaient vraiment froids contre... C'est un des derniers pays à avoir autorisé rendu légal l'homosexualité. Ça. Et très, très peu de temps après, c'est eux qui ont fait le premier en Europe, je crois, le mariage pour tous en Irlande, quoi. Voilà.
Et Elton John est le premier citoyen britannique à s'être marié, en fait. Il a voulu en faire un symbole. Quoi.
Souvent, on parlait de la double vie qu'on mène en tant que personne psychiatrisée, en tout cas avec un problème psychique. On ne dit pas tout le temps ce qu'on fait. Moi qui bosse en ESAT, je suis pas en train de dire ça. Même en famille, je le dis pas. Enfin, mais voilà, même avec les gens, je le dis pas, quoi. C'est souvent pris avec légèreté. On n'est pas pris au sérieux, quoi. Pourtant, on bosse comme tout le monde et le boulot est dur et on est méritant. Comme moi, ça fait des années aussi que quand je suis avec des amis qui n'ont pas de problème psy. Je parle pas de mes problèmes. Et c'est vrai que ça, je sais pas pour vous, mais ça fait une double vie, en fait, en quelque sorte.
Moi, je suis d'accord. Pendant des années, j'ai enseigné et aucun des cours particuliers et aucun de mes employeurs n'était au courant que j'avais une maladie, une pathologie psychique, quoi. Et à la fin, ça finit par me dépasser et j'ai arrêté, quoi.
Je vais vous dire, à 44 ans, j'étais mis en invalidité et j'étais à l'université permanente et tout le monde se demandait pourquoi j'étais là à 44 ans à suivre les cours. J'ai jamais répondu pourquoi, mais sauf à quelques personnes que je connaissais de près, quoi.
C'est pareil dans la famille, c'est pareil. Je crois que ma mère ne l'a pas dit à sa sœur, à son frère. Mon père ne l'a pas dit à sa sœur. Personne ne le sait, quoi.
C'est un peu comme s'il y avait une honte aussi, enfin, de l'entourage, ou du moins où il y a beaucoup de non-dits. Ça me fait penser à ça.
Ouais, c'est un sujet tabou. Ouais.
Ça fout la honte, peut-être. Ouais, je sais pas.
Je trouve qu'effectivement, je suis pas très à l'aise avec ça.
Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre le discours et les actes, quoi. Parce que moi, j'ai vu pas plus tard qu'il y a 3-4 ans, en fait, un homosexuel se faire taper sur le visage parce qu'il était homosexuel.
Ah, c'est stigmatisant.
À Nantes, rue du Maréchal Joffre et. Il était très maniéré. Il y a un mec qui passe en voiture. Il dit salut, et puis il est sorti.
C'est horrible. Ça existe
il
encore.
Il est sorti et il s'est pris un point dans la gueule, quoi. Voilà.
Je voulais parler aussi de l'auto-discrimination, en fait. Enfin, j'appelais ça auto-stigmatisation dans le texte. Et ça, pas seulement les schizophrènes sont concernés par l'auto-stigmatisation, mais parce que j'ai vu aussi que, par exemple, les personnes d'origine étrangère, quand elles s'auto-stigmatisent, Et donc, ça les empêche d'avancer dans la vie, quoi. Et voilà. Et je voulais dire aussi que l'autostigmatisation, c'était un peu ce qui... Bah, là, ça fait très longtemps que je n'ai pas été perturbé comme je l'étais il y a de ça quelques mois. Mais quand je suis en période d'angoisse, eh ben, je me cachais, quoi. Et c'est peut-être que... C'est, bah, je sais que quand je suis... On en parle des fois avec tes copains. Et quand on est... Et quand on est en crise, quoi, et ben on n'a qu'une idée, c'est de se réfugier chez soi. La stigmatisation, c'est que quand je m'envoie des vannes dans la tête, quoi, je me dis pauvre con, ou des choses comme ça, quoi. T'es nul et des choses comme ça.
Tu ne mets pas des barrières avec les gens aussi, les gens normaux. Dire est-ce que je vais pouvoir parler.
De toute façon, j'ai pas trop envie de parler avec les gens parce que j'ai peur, quoi.
Donc ça fait partie de l'auto-stigmatisation, c'est que tu n'oses pas parler, parce que tu pourrais parler comme tout le monde, mais tu te prends pas comme tout le monde, tu te penses pas comme tout le monde de temps en temps.
Après, dans l'idée, en fait, moi je suis d'accord pour tout ça, mais après, quand on est en contact direct avec les gens, mes pensées, elles sont pas pareilles, quoi. Enfin, je pense que
comprends.
C'est beaucoup de personnes qui sont comme ça.
Ouais, moi aussi.
Ouais, tu vois. Juste dire une chose, c'est qu'avant d'être schizophrène, j'avais des pensées de discernement. Du discours, c'était. Et en fait, je pensais des trucs et en fait, après, je pouvais l'utiliser dans la vie courante pour me faire marcher, quoi. Et ça a complètement disparu. Maintenant, je suis beaucoup... j'essaye d'être dans le ressenti et des fois, ça marche pas, quoi.
Moi, ça me fait juste penser, quand tu parles des crises d'angoisse et que tu te caches, qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des lieux où ça serait possible de vivre ces crises d'angoisse, de vivre ces... je sais pas, des dépressions, des idées suicidaires, sans avoir à forcément être hospitalisé, enfermé. Et ça crée le fait d'être caché.
De ne plus être seul avec ça.
Il y a un espoir.
Si on pouvait, quand on est en grande difficulté, être, comme dit Lydie, dans un endroit où il y aurait d'autres gens, et qu'on puisse, même si c'est médicalisé, mais au moins ne pas être tout seul à souffrir de ça, quand on est en grande souffrance. C'est vrai que c'est pas mal.
Moi, je suis assez optimiste, parce que dans les écoles, maintenant, on enseigne l'empathie.
Heureusement.
Bah, d'ailleurs, j'ai vu ça, c'est que beaucoup, il y a beaucoup de, les jeunes sont beaucoup moins racistes que les vieux, quoi. C'est des études qui ont été faites, quoi.
Ça m'étonne. Ça, là.
Hein? C'était vers 2020 que j'ai vu ça, là, l'information. Là. Après, c'est vrai que, mais en réalité, l'actualité prouve le contraire, mais. Je sais pas, faut garder espoir.
Prenons espoir en voyant des cours d'empathie. Comme nous traitions des minorités discriminées, nous avons pensé aux minorités sexuelles discriminées, que sont les lesbiennes, gays, trans, transgenres, queer, non-binaires. Et pour ce faire, nous avons été directement interrogés un des représentants de l'association Nozig à Nantes.
Alors moi, je m'appelle Aymeric Miguez et je suis le coordinateur, du coup salarié, du centre LGBTQIA+, de Nantes. Alors LGBTQIA+, ça veut dire lesbienne, gay et bi, trans, queer, intersexe et asexuel ou aromantique. Alors de manière très rapide, Nozig, qui veut dire nos orientations sexuelles et identités de genre, existe depuis plus de 30 ans. En tant que centre LGBT, on fédère 18 assos, mais on a aussi nos propres activités. On a donc qui tourne autour de 4 missions qui sont accueillir, soutenir, informer, lutter. On accueille tous les publics sans condition, sans discrimination, sous plusieurs formes, des temps conviviaux, des permanences sans rendez-vous, des entretiens individuels. Il y a toute la partie soutien aussi, c'est soutenir tous les publics. Par exemple, les personnes en demande d'asile qui font une demande d'asile pour des raisons d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Ça, c'est le premier public qu'on accueille. Ça peut être soutenir aussi des jeunes dans le cadre, avec leur famille. Ça peut être soutenir des victimes de LGBTQIA-phobie. Ça peut être soutenir des personnes trans également, les accompagner dans leur transition. On peut aussi soutenir des projets. Enfin, voilà, il y a tout le soutien et tous les soutiens sont possibles. Après, il y a la partie intervention et sensibilisation. Donc, on intervient auprès de tous les publics. Donc, des jeunes, collège, lycée, jeunes incarcérés, volontaires en service civique, jeunes en foyer de jeunes travailleurs, et aussi beaucoup de professionnels, donc métiers de l'animation, du droit, de la santé, de l'éducation, des agents de collectivité, mairie, département, des syndicalistes, des entreprises, des travailleurs sociaux, voilà, c'est très 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 vaste, d'autres associations également, voilà. Et après, il y a toute la partie lutter et être visible. On est une association politique, alors apartisane et asyndicale, donc on est indépendant de tout parti, tout syndicat et toute confession, toute religion. Par contre, bah, prendre position sur les droits des femmes, des personnes trans, des personnes migrantes, sur le mariage, la filiation, la parentalité, c'est politique, dans le sens s'investir dans la cité. Et puis, il y a aussi tout l'aspect, donc on est une association féministe, antiraciste, antivalidiste, etc. Et on a toute la partie visibilité parce qu'on organise la Marche des Fiertés, la Pride, chaque année, qui est un travail voilà, qui est énorme. On organise également un festival du cinéma LGBTQIA+, qui a lieu également au mois de juin. Mais après, dans l'association, il y a plein de commissions, enfin, je ne vais pas toutes les dire, hein, mais en plus de la commission de droit d'asile, intervention milieu scolaire, une commission pour les personnes trans ou en questionnement, on a une commission théâtre, on a une commission, j'en oublie beaucoup, une commission médiathèque, voilà. Il y a pas mal d'événements aussi individuels qui ne sont pas forcément gérés par des commissions, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de gens ont besoin de parler, d'être écoutés, d'être soutenus. Alors les personnes peuvent venir seules s'il y a des questionnements. Des fois, il n'y a pas de questionnement, mais elles veulent avoir des conseils sur un accompagnement. Là, pour exemple, pour les personnes en demande d'asile, bah, on va les aider sur l'écriture de leur récit, sur la préparation aux différents entretiens, aussi voir où elles en sont au niveau administratif, au niveau du logement, de la santé, etc. Donc là, les personnes en demande d'asile, pour les personnes trans, bah, des fois, c'est des personnes qui se questionnent sur leur identité de genre ou des personnes qui savent qu'elles sont trans. Et là, on peut les aider sur s'il y a besoin des démarches administratives, médicales, juridiques. Faire aussi du lien avec toutes les personnes de la campagne. On peut aussi faire du lien avec les familles, les proches, les amis. Voilà, c'est très très large. Il y a des entretiens individuels, il y a des groupes de parole. On peut aussi soutenir, on peut se porter partie civile en justice. On peut rester en justice s'il y a des victimes d'homophobie, biphobie, transphobie. Ça, on peut accompagner. Ouais. C'est une partie des personnes qu'on accueille. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais oui, il y a quelques personnes qui viennent dans l'asso qui sont victimes de discrimination. Après, il y en a beaucoup, mais les personnes ne viennent pas forcément pour ça. Mais oui, nous, on accueille des personnes victimes de discrimination. Ça peut être dans le cadre du travail assez fréquemment. Nous, on ne travaille pas seul, hein, on travaille avec plein d'autres assos ou des syndicats ou d'autres organisations. Hein. Le but, c'est de jouer collectif, mais c'est aussi des victimes de discrimination dans le cadre de la famille, dans l'espace public, sur Internet. Voilà, et on travaille là-dessus. Adhérent à jour de cotisation, je pense qu'on va être aux alentours de 150-200 personnes. Je ne veux pas dire de chiffres de bêtises, mais voilà, entre 150-200 personnes à jour de cotisation. On a une file active de plus de 400-500 personnes, je pense. Et des militants, militantes au quotidien, à chaque fois, c'est 80 personnes au quotidien. Je pense que là, pour le coup, on est assez mixte au niveau tranche d'âge, au niveau orientation sexuelle, au niveau identité de genre, on est très, très mixte. Peut-être qu'on se questionne, là, il y a un manque, enfin, la place des personnes racisées. Je pense que oui, là, on a un travail à faire là-dessus, sur la place des personnes racisées dans l'association. Mais après, au niveau genre, identité de genre, âge, on est plutôt mixte. Même au niveau des personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap dans l'asso. Ouais. C'est un public assez fragile parce que forcément, des fois, si des personnes peuvent être, ça peut arriver, peuvent être exclues de chez elles, de leur famille. Donc bah, forcément, il y a des conséquences où les personnes en demande d'asile aussi peuvent avoir aussi des difficultés. Enfin, ça peut être assez compliqué psychologiquement pour ces personnes-là parce qu'il y a un parcours de vie, parce qu'il y a des traumas pour beaucoup de personnes. Oui. À force d'être au quotidien, qu'on n'utilise pas forcément le bon genre, qu'on n'utilise pas notre bon genre, qu'à force on soit discriminé parce que, je donne des exemples, on soit trop féminin, trop masculine, qu'on soit maquillé, qu'on soit habillé de telle ou telle manière, bah, on peut être subir la discrimination. Et quand c'est au quotidien, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. On sait que bah, les tentatives de suicide chez les jeunes LGBTQIA+, est entre 5 à 10 fois... Il y a 5 à 10 fois plus de risques chez les jeunes LGBTQIA+, que chez les jeunes hétéros, de faire une tentative de suicide. là, je pense notamment pour les personnes trans, alors je suis pas concerné, mais beaucoup de médecins s'autoproclament experts et que des fois, on n'écoute pas forcément la parole des personnes concernées. Pendant longtemps, en fait, il y avait une obligation, il y avait un parcours unique pour pouvoir se faire rembourser. Depuis 2016, par exemple, on sait qu'après la loi justice du 21e siècle, pour les personnes trans, le parcours est démédicalisé et que les personnes trans peuvent plus facilement, par exemple, changer de genre, changer de prénom. C'est toujours le parcours du combattant. Et même si on a démédicalisé ça, il y a quand même plein de juristes, enfin de juges qui demandent à ce qu'il y ait une preuve médicale. Donc c'est toujours compliqué, hein, mais oui, en fait, nous, on a juste envie que les personnes concernées soient écoutées parce que c'est les plus expertes de leur vie, de leur vécu, de leur, de ce qu'elles ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de toi besoin de suivi psy. Hein. Je pense que tout le monde en a besoin. Voilà. Qu'on ait des problèmes ou pas, on a tous besoin d'un suivi psy. Mais oui, des fois, en fait, il faudrait plus écouter les personnes concernées. Et puis après, sur l'aspect médical, moi, je pense aussi, par exemple, aux personnes intersexes. Les personnes intersexes, on sait qu'elles ont un corps sain. On sait que c'est une on appelle ça une variation du développement sexuel. Sauf qu'aujourd'hui, en France, dans 90% des cas, des personnes intersexes sont opérées sans leur consentement parce que les opérations ont lieu dans les premiers mois, les premières années de leur vie, que la France a été condamnée à de multiples reprises par l'ONU, le Conseil européen des droits de l'homme, pour mutilation sur les enfants intersexes, les bébés intersexes, et qu'on n'a pas besoin de ces opérations, que dans plein d'autres pays européens, il n'y a plus ces opérations, mais que la France continue. Même le défenseur des droits a émis un avis il y a quelques années là-dessus pour arrêter les mutilations sur les bébés intersexes. Donc là, encore une fois, c'est les médecins qui se disent « Oui, si, il faut opérer, on fait pression sur les parents. » En fait, il n'y a pas besoin de ces opérations. Les personnes intersexes ont un corps sain, et que si elles veulent faire une opération, qu'elles le fassent en conscience, avec un consentement libre et éclairé, une fois que les personnes sont adultes.
Est-ce que vous voulez réagir suite à l'interview de Nozig?
Moi, je veux bien réagir sur la toute fin quand il parle des suicides, parce qu'en fait, il y a un parallèle direct avec les personnes qui souffrent de troubles psychiques, où on sait aussi que le taux de suicide est à peu près au même endroit, enfin, plus élevé. Ça m'évoque ça aussi, des parallèles.
D'ailleurs, je peux vous dire, depuis que je suis arrivé au GEM, je crois qu'il y a eu 10 suicides.
Ouais, c'est quand même terrible. Hein. Et moi, j'ai connu, depuis que je suis malade, plusieurs personnes qui sont suicidées. J'étais au GEM en 2012-2011 et depuis, il y a beaucoup de gens qui sont partis seuls et c'est très dur. C'est vrai que nos situations sont difficiles, comme pour les jeunes discriminés pour leurs orientations sexuelles et comme nous aussi, quoi. C'est très difficile, quoi.
Pour les étrangers, pour tout le monde. Oui, je sais qu'il y a aussi le problème, c'est que on compte pas ceux qui ont tenté de se suicider. Et qu'on parle aussi, quoi. Si tous ceux qui suicidaient en tant que schizophrène, ils n'auraient plus, quoi.
Ça donne envie d'être bénévole pour Nozig.
Je sais pas quoi dire.
Est-ce que vous vouliez sinon...
Si, en fait, je voulais juste parler d'un copain qui est IMC, c'est-à-dire infirme moteur cérébral, c'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas eu d'oxygène à la naissance. Et il m'a parlé de la discrimination qu'il a subie. Et il a senti de la tristesse, quoi. Il disait que l'émotion, c'était la tristesse, parce que, c'est vrai que moi, quand je vois un fauteuil, c'est vrai que, en fait, j'ai tendance à ne pas vouloir regarder, parce que je me dis qu'en fait, il va se dire, on me regarde, en fait, on me traite de je sais pas quoi parce qu'on me regarde. C'est comme une fois, je regardais des gens de la rue, donc dans la rue, quoi. Je les regardais. Comme si en fait je voulais les amourer par le regard, et en fait ils m'ont demandé quoi, ils m'ont demandé de l'argent, mais enfin c'est pour ça que en fait je crois qu'on est tous un peu mal à l'aise des fois.
Moi je pense à une personne du GEM qui est d'origine algérienne qui me dit qu'il a peur d'un café parce qu'on regarde.
Bah ouais, c'est ça, quand on est pas bien dans sa peau, on se dit que tout le monde va nous... Comme si on allait se faire agresser, quoi.
C'est de la paranoïa, en fait. Hein. Je pense, parce que moi, je sais que c'est pareil. Des fois, j'ai l'impression que tout le monde voit mon handicap, et ce qui fait que j'aimerais bien être invisible, quoi.
C'est donc, tu veux dire que le handicap invisibilise, comme on dit, quoi.
Toi, tu as le droit à l'indifférence, en fait.
Oui, j'ai le droit à l'indifférence.
Tu veux avoir le droit à l'indifférence.
Ouais. C'est ça. Ouais. Mais ça, c'est le problème de la culpabilité. On n'en finit jamais avec la culpabilité. Enfin, je ne sais pas. Tous les psys en ont parlé. Tous les.
C'est peut-être
judéo-chrétien, je ne sais pas. Mais,
en fait, mais ce que je veux dire, c'était un chiffre. En fait, c'était que dans les informations, il y a. Enfin, c'est un chiffre qui parle de des informations dans les journaux au Canada. Et donc, il y a 40% des articles qui font référence directement à la violence, en fait, directement, quoi, danger, tout ça, quoi. En réalité, quand on parle des schizophrènes, eh ben, en gros, à cause des journaux, eh ben, on a une mauvaise image. Et il y a beaucoup de choses comme ça, ce qui fait que, en fait, quand on est stigmatisé, eh ben, c'est parce que c'est la culture qui fait ça, quoi. J'ai l'impression. C'est-à-dire que si on donnait aux gens la possibilité de savoir ce qu'il y en a vraiment, quoi, ben on ne serait pas
la
aussi...
La culture et l'éducation aussi, parce que, par exemple, les enfants, on va plutôt avoir tendance à acheter une petite voiture à un garçon et une poupée pour une fille. Et ça ancre dans le cerveau des jeunes, en fait, des stéréotypes dont ils peuvent être victimes après, quoi.
Et tu vas dire que tout le monde devrait être tout serait égal, en fait,
je sais pas, c'est pas forcément genré les gens dès le début de leur vie, quoi.
Moi, je dirais plutôt que les hommes ont des gènes de féminité et les femmes ont des gènes de masculinité.
Oui, je suis d'accord avec ça.
Alors moi, pas tout à fait, parce que ça me fait penser à une expérience qui a eu lieu aux États-Unis où, il y avait une quinzaine de personnes dans la salle et ils montraient une vidéo d'un bébé. Et ils disaient aux gens, cet enfant est un garçon, qu'est-ce que vous pensez ? Ce bébé pleurait. Et donc la plupart des gens disaient, mais il est en colère, il doit être un peu énervé, agacé, on ne sait pas. Et ensuite, il y avait exactement la même vidéo avec le même panel de personnes. Et donc la personne disait cette fois, cet enfant est une fille. Et tout à coup, les gens avaient toute autre attitude en disant, ah, peut-être qu'elle n'est pas très bien, peut-être qu'elle est un petit peu fragile, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être qu'elle est contrariée. Et du coup, je trouve ça intéressant comme étude sur ce que ça dit aussi. Voilà.
Tout à fait.
Et moi, juste, ça m'évoque, Emmanuel, quand tu parles des 40% au Canada aussi, la culture, le rôle des médias dans le contexte actuel aussi des élections et comment aussi ils ont fortement contribué à ce que le RN soit aussi puissant.
Sans transition, donc, on va écouter un morceau de musique, on va se distraire un peu. Enfin, se distraire, je ne sais pas. On va écouter un morceau de musique qui s'appelle Riposte populaire, qui est une reprise d'un morceau des Berruriers Noirs de 1985 qui s'appelle Porcherie, en fait. Alors, ce morceau, Riposte populaire, il est interprété par le collectif éphémère d'artistes. Donc, c'est une chanson qui a été reprise en réaction à ce qui s'est passé dans notre pays ces derniers temps politiquement. Donc la montée du RN à 33%. Voilà, et à l'époque, je me rappelle de cette chanson, j'étais ado et dans la chanson, il disait plus jamais de 15%, plus jamais de 15%. Et là, on est à 33%, quoi.
Porcherie.
La jeunesse emmerde le Rassemblement National.
Les hommes se comportent comme des porcs de l'élevage en pâturie à des milliers de tas de morts.
Porcherie, porcherie. Porcherie, porcherie.
Nous sommes à l'heure des fanatiques.
Folie, oppression, scientifique.
Nous sommes dans un état de jeûne.
Et partout c'est la loi, le flingue.
Porcherie, porcherie. Porcherie, porcherie.
Prostitution organisée.
Putréfaction gerbinosée.
Le diamant crève, les porcs en bif. Attention, on l'exagère.
Porcherie, porcherie.
mourir pour rester libre. On se lève, on fait barrage à l'homophobie, au masculinisme, au racisme.
Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes.
Tous unis contre la grande escroquerie politique.
Binaire, non binaire, genré, non genré, athée, croyant, homo, hétéro, queer.
Ensemble, nous sommes de la dynamique.
Vous savez pourquoi les jeunes aiment bien Jordan Bardella? Parce qu'il fait des jeux vidéo avec eux. C'est vrai, non, authentique. Hein. Et il dit, celui qui sera le plus performant, j'essaierai de le battre.
Il est bien intégré, quoi.
Pourtant, il ne représente,
bon,
représente pas les gamers hein, du tout. Hein.
Ouais, mais j'ai vu un truc à la télé comme quoi, en fait, un reportage comme quoi il montrait que c'était un pur produit de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen, là, adopté entre guillemets il y a des années, et elle en a fait ce qu'il est devenu maintenant, en fait. Et en fait, c'est un type qui a pas de personnalité, mais
il a bossé il avait des problèmes d'expression orale. Il a bossé avec un gars qui est un coach pour sourire, parce qu'on voit que quand il sourit, en fait, c'est pas naturel chez ce mec là
il était conseillé par des storytelling.
Ouais, il a bossé pour. Ils ont tous bossé. Marine Le Pen aussi bossé pour un beau sourire, pour voilà, gentil, pour voilà. Ils ont tous bossé pour ça.
C'est des acteurs.
C'est des vrais acteurs.
Je sais qu'on dit, il dit qu'il vient des milieux populaires, mais il a un appartement dans une commune très riche.
C'est des grands bourgeois. C'est des grands bourgeois. Faut pas l'oublier.
Ouais.
C'est sûr que les partis de gauche disent que ils votent pas pour. Enfin, ils vont pas aider les ouvriers, quoi. Ces gens-là, le FN, enfin le RN.
Il y a des médias comme Mediapart, comme Blast, ceux de l'info, qui sont des médias de gauche. Et c'est intéressant d'avoir le son de cloche de l'équipe adverse, en fait. On a toujours le même son de cloche de la droite, l'extrême droite, et on diabolise la gauche et l'extrême gauche. Mais c'est bien d'avoir différents points de vue, pas d'avoir toujours le même. C'est intéressant, en tout cas.
Oui, et encore, là, on a encore l'audiovisuel public. Mais si le RN passe, ils vont privatiser l'audiovisuel. C'est-à-dire que l'audiovisuel public, donc.
Et qui rachètera Bolloré? Si c'est Rassemblement qui passe aux élections, par exemple, le planning familial n'aura plus de subventions.
Quelque part, ça veut dire que Nozig et toutes les associations à but social seraient nettement embêtées par l'arrivée du RN au pouvoir.
On va d'ailleurs passer le deuxième extrait de l'interview.
Alors là, pour le coup, l'OMS enlève la transidentité des maladies mentales en 2019. En France, c'était en 2010. Pour Roselyne Bachelot, la France enlevait la transidentité des maladies mentales. Il a fallu du temps, mais... Oui, il a fallu du temps. je sais pas. Je pense, encore une fois, c'est de la méconnaissance. La transidentité, c'est pas nouveau. Ça a pas 10, 15, 20 ans. La transidentité, ça a toujours existé voilà, dans la nuit des temps, mais... Ouais, pour les personnes trans, je pense, un changement, pour que le changement d'état civil soit libre et gratuit sur simple déclaration en mairie, par exemple, l'arrêt des mutilations sur les personnes intersexes, l'ouverture de la procréation médicalement assistée qui a été ouverte récemment pour les femmes célibataires et les couples de femmes, qui soit ouvert aux personnes trans également qui en auraient besoin. sur la conservation des gamètes pour tout le monde, sur le remboursement des accouchements ou sur la prise en charge des personnes enceintes. Il n'y a pas que des femmes enceintes, il peut y avoir des hommes trans enceintes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais moi, je pense surtout des moyens, des soutiens financiers aux associations. Il y a un réel moyen. J'ai pas de chiffres, mais voilà, aux associations, je pense que nous, nos assos, là, je pense, nous, au centre LGBT, mais pas que, il y a plein d'assos LGBT qui manquent de moyens, on aurait besoin de moyens. Il faut former tout, pour moi, il faut former toutes les personnes, jeunes comme moins jeunes, les services de police, les services de justice. Il faut faire de la formation de masse pour tout le monde, voilà. Plus maintenant, depuis 2016, non. Après, les gens le font. Passe par là parce que beaucoup de. Je pense à des endocrinologues, je pense à d'autres personnes qui voilà, ont besoin de ça ou certains juges ont besoin d'avoir une preuve médicale, mais il n'y a plus d'obligation de passer par un psychiatre. Voilà. Bon, après, quasiment tout le monde le fait, et, voilà, mais oui, il n'y a plus d'obligation. Alors, sauf si j'ai des erreurs, je veux bien dire une erreur, mais je ne crois pas qu'il n'y a plus d'obligation. Il y a une. C'est plus facile parce que. Depuis une vingtaine d'années, les médias se sont développés, les réseaux sociaux existent, les plateformes de films, enfin, je pense à Netflix ou d'autres, existent. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Et ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup visibilisé. Il y a 20 ans de ça, on n'avait pas tout ça. Il y avait les chaînes de télé, mais les références LGBT, on n'en avait pas beaucoup. Moi, je peux parler de 14 ans avant, j'ai commencé à faire des interventions en milieu scolaire il y a 14 ans de ça, en 2010. Les seules références qu'on avait au niveau LGBT, c'était Laurent Ruquier, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, Amélie Mauresmo, voilà, Stéphane Bern. Je pense qu'on n'en avait pas, il n'y avait pas beaucoup de références, alors qu'aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, entre Netflix, mais toutes les autres plateformes qui peuvent exister, il y a énormément de références, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais voilà, ça a beaucoup évolué, oui. Et puis encore une fois, la loi est avec nous. Depuis 2004, les injures publiques sont pénalisées. Tout ce qui est discrimination dans le cadre du travail sont pénalisées. Ça fait moins de 20 ans. Ça fait 20 ans que tout ce qui est agression physique, que l'homophobie, la biphobie, la transphobie est reconnue depuis 20 ans. Enfin, même pas 10, 15, 20 ans, quoi.
Mais je pense que ça peut bouger un peu plus parce que Gabriel Attal est concerné.
Et Brahim El Attal est concerné, c'est... Alors, pour le coup, moi, je vais passer un coup de gueule. C'est pas... Là, on a un Premier ministre, certes, qui est concerné, mais c'est le gouvernement le plus homophobe et transphobe qu'on ait eu depuis beaucoup, beaucoup d'années, entre Aurore Berger, qui a tenu des positions anti-mariage pour tous et qui reçoit des personnes transphobes et qui met en avant des personnes transphobes dans son ministère, quand on a Darmanin, qui était aussi contre le mariage pour tous, quand on a Madame Vautrin, qui était aussi contre le mariage pour tous et contre... c'est le gouvernement qui a le plus de personnes transphobes et homophobes depuis des années et des années et des années. Ouais. Après, ça ne veut rien dire. Il y a des personnes LGBT dans les mouvements d'extrême droite homophobes. On peut être LGBT et aussi LGBT-phobe. Voilà. comme une femme et reproduire le sexisme ou une personne racisée et être raciste, ça existe. Ouais. Pour nous, le terme woke, c'est l'extrême droite qui l'utilise. Le terme woke, à l'origine, ça veut dire être éveillé et être conscient des discriminations, des oppressions et du système de domination qui peut exister. Donc, si être woke, c'est lutter contre les discriminations, être réveillé et être conscient de la domination et des oppressions, oui, on est woke. Après, voilà. Alors, c'est difficile. Alors là, pour le coup, je pourrais parler des sujets LGBT uniquement. Je ne connais pas, parce que je ne suis pas assez expert d'autres discriminations, mais sur les sujets LGBT, on a des chiffres. Je pense à SOS Homophobie, chaque année, qui publie un rapport annuel. Son rapport annuel existe depuis bientôt 30 ans. Le rapport annuel d'SOS Homophobie, qui est accessible sur le site, qui montre que, oui, il y a une évolution, en tout cas ça stagne, la SOS Homophobie, il y a énormément de témoignages de LGBTI-phobie. Voilà, ces chiffres, je crois que c'est 1500 ou 2000 témoignages par an, c'est juste les gens qui osent témoigner, qui parlent, donc je pense que c'est sous-estimé par rapport à la réalité. Voilà, ça c'est des chiffres d'SOS Homophobie, il y a aussi des chiffres, alors ces derniers, je crois qu'entre l'année dernière et l'année d'avant, entre 2023 et 2022, il y a eu une augmentation des cas de transphobie, des cas d'agression physique, selon les chiffres d'SOS Homophobie. On peut aussi partir des chiffres du ministère de l'Intérieur, où il y a aussi une augmentation de plus de 30% des agressions physiques. ou en tout cas des infractions, des injures. Souvent ce qu'on appelle, je pense pareil au mouvement féministe, mais pour le sujet LGBT c'est pareil, c'est, bah, plus on est visible, bah, plus ça dérange des gens, donc plus les gens vont s'en prendre à nous. Je pense au cas de l'avortement, là, ces derniers temps, bah oui, on recule dans certains pays européens et même parfois en France. Plus on est visible, plus on acquiert de droits et ça dérange les gens qu'on soit visible. Il n'y a jamais eu plus de personnes LGBT, il y en a toujours eu le même nombre, sauf qu'on est plus visible, on a plus de revendications et bah, ça dérange des personnes. La plupart des centres LGBT se sont fait dégrader leurs locaux cette année ou l'année dernière. Hein. À Tours, il y a eu une bombe qui a été mise dans le... une bouteille explosive, mais bon, on appelle ça une bombe dans le local du centre LGBT Tours. Le centre LGBT de Saint-Denis à La Réunion est parti en fumée. Et puis après, voilà, sans parler du centre LGBT d'Angers, de Biarritz, de Bayonne, Perpignan, Bordeaux, Paris, Nantes. Enfin voilà, tous les centres LGBT se font régulièrement dégrader au même titre que souvent les plannings familiaux. Et puis aussi, non, un truc assez important à dire, c'est que bah, dans la parole médiatique aussi, c'est légitimé quand on voit que sur des heures de grande écoute, sur certaines chaînes, il n'y a aucun problème à tenir des discours, des propos homophobes, transphobes. En gros, il y a une libération de la parole qui est légitimée par certains... présentateurs, par certaines chaînes, par certaines émissions. Et du coup, les gens se disent, oh, bah, si on en parle à la télé, nous, on peut en parler. Quoi. C'est quelque chose qui nous intéresse en interne. On sait qu'on a beaucoup de personnes qu'on appelle neuroatypiques ou neurodivergentes ou neurodivers. On a beaucoup de personnes comme ça à nos zigs. On essaye de mettre des choses en place hein, sur des temps conviviaux avec un peu de bruit. Bah, des fois, on essaye d'avoir une salle calme. On essaye dans des manifestations ou dans des rassemblements, d'avoir des espaces calmes, des espaces un peu accessibles pour les personnes neurodivergentes ou neuroatypiques. Nous, on parle beaucoup d'intersectionnalité, le fait d'être au croisement de plusieurs discriminations, d'être une femme noire ou d'être un homme trans, mais en situation de handicap. Oui, en fait, on est au croisement de plusieurs discriminations, plusieurs oppressions. Ah, bien sûr, mais oui, c'est vrai que j'ai été très noire. Non, globalement, c'est super d'être une personne LGBT, mais au-delà d'LGBT, non, globalement, ça se passe bien. Venez dans nos super locaux parce qu'ils sont super. On a plein d'événements très divers et variés, culturels, sportifs, militants, tout ça. N'hésitez pas à venir, tout se passe bien. On est très contents dans cet assaut. On n'est pas obligé d'être LGBT pour venir dans l'assaut. Venez partager, venez jouer, venez communiquer, venez discuter. Et tout se passe bien. Et venez participer, par exemple, à la Pride, parce que c'est festif, militant, mais aussi musical. Et voilà. La première Pride à Nantes a eu lieu en 1995. L'association existe depuis 1993. Mais oui, les premières Prides, on a retrouvé des photos où les gens étaient masqués. Là, aujourd'hui, l'année dernière, il y avait plus de 20 000 personnes à la Pride de Nantes. Donc, c'est la plus grosse Pride de l'Ouest. Clairement, c'est la plus grosse Pride de tout l'Ouest de France. Ouais.
Nous allons écouter le magnifique slam de Lily.
Dissociation. Dissonance provocante, distance effrayante. Mon corps, je te quitte, mon esprit qui s'envole. Le monde en farandole. Dissociation. Derrière son immense bureau en verre, un type plein de tics me dit des neuroleptiques. Baratin psychiatrique, t'as homme chimique, moi j'en fais des chimères oniriques, juste envie d'un air psychédélique, de beauté révoltée. Dans la nuit, étoilé sur les murs, tagué, amour, rage et volupté.
Une nouvelle égérie est née. Il est triste de voir que la Constitution, dans son préambule, exclut toute forme de discrimination, mais ça n'a jamais été appliqué.
Et c'est plutôt en fait super intéressant. Ouais. En quelle année elle a été faite la Constitution française ?
Non, c'est le préambule qui est repris de préambule des Constitutions de 1949, qui était remis au bout après. Le préambule, j'ai pas dit la Constitution, un préambule.
Mais un préambule.
On doit ne pas discriminer les gens.
C'est incroyable.
Donc c'est pas appliqué.
Ouais, c'est ça, c'est pas appliqué.
Pourtant, au début, les femmes, elles étaient un peu discriminées. C'était les droits de l'homme, c'est pas les droits de, enfin.
Le droit de vote est accordé aux femmes parce que c'était De Gaulle et il pensait qu'il plaisait aux femmes.
Ah, bah, il a eu raison.
Et le partage de l'autorité parentale est récent aussi, par exemple. Le partage du carnet de chèques en conjoint est récent aussi.
Et vous oubliez aussi que il y a la déconjugalisation, c'est-à-dire que avant l'homme, je crois qu'il avait tous les droits, je sais pas, c'est-à-dire que on pouvait pas, par exemple, je sais qu'il y a des gens où j'aime, ils se sont mis ensemble parce que dans la même maison, parce qu'avant ils pouvaient pas à cause de la déconjugalisation, parce qu'en fait ça a empêché d'avoir plein de droits. Avant.
Quoi. C'est-à-dire qu'avant, deux couples qui touchaient la hache, et on faisait une pondération entre les deux. Maintenant, chacun peut toucher la hache de chaque côté.
Ou un salaire.
Et la hache, c'est l'allocation adulte handicapé, donnée par la Cotorep, enfin la MDPH. 1 000 et quelques.
1 016.
1 016, oui. Ça me faisait penser à une chanson de Santa, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Manifeste. Elle développe dans cette chanson l'idée que tous les textes religieux ont été écrits par des hommes, pratiquement.
C'est vrai, dans les dix apôtres de la scène avec Jésus-Christ, il n'y a pas une femme. Hein.
2000 ans de patriarcat.
Et oui. Mauvais.
Voilà. À part Marie, qui a beaucoup influencé dans les écrits. Hein.
Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Vous pourrez nous réécouter en podcast sur le site de GTFM. Et aussi, vous pourrez nous retrouver au GEM Le Nouveau Cap, où il y a un restaurant associatif le jeudi midi. 5 € pour les adhérents et 11 € pour les gens de l'extérieur. C'est préparé avec amour par les gens du GEM. Et aussi, je serai contente de vous servir, car c'est moi qui sers en ce moment. Nous finissons en musique. Olivier, présente-nous la musique.
Donc oui, j'ai écrit cette chanson en me questionnant comment la violence de notre société est traitée par les grands médias. Les Français des banlieues, et pas que, sont souvent montrés du doigt. La précarité, pour moi, est source de violence. La non-prise en compte de la dureté d'être discriminé, de plus de ses difficultés quotidiennes. On ne communique que très peu sur comment stopper la violence. Répondre par la répression sans comprendre ses fondements et ses aboutissants. C'est continuer à verser de l'huile sur le brasier de l'ignorance de la population privilégiée et des violences qui sont subies par les plus faibles et les plus vulnérables. Et de ce cercle vicieux qui finalement touche tout le monde, et enfin son instrumentalisation pendant les périodes électorales en particulier, et aussi tous les jours de l'année malheureusement. Merci pour votre écoute. Merci à vous.
Merci.
Salut tout le monde.
Merci Olivier.
Merci.
Souhaitez-vous stopper les violences, m'armer des affres de la galère, trop de personnes en proie à l'errance. Faites en sorte qu'il y ait moins de misère. Nous souhaitons la stopper en urgence, bébéante au cœur de l'enfance. Victime par toutes les formes d'outrages faits aux femmes et aux hommes. La lutte de classe n'est plus une lutte, lancé de pierre contre soldat de fer. Pour ta parole, on te brise la nuque, rebelle martyr damné de la terre. Et si les masses se nourrissent de reflets difformes, de fausses paroles, de la plus dégueulasse des nourrices, qui les transforme alors en parabole. Tant qu'il y aura trop de différences, que les fascistes accéderont au pouvoir, que la vraie richesse est intérieure et non des signes de réussite ostentatoire. Des vies seront gâchées par vos vies mêmes, de vos privilèges asphyxiant naturel. Alors qu'être sur terre est une chose des plus belles, des plus rares et pour cause. Toi le puissant qui détient le trésor, fruit des guerres d'or et d'argent. Toi qui as le droit de vie et de mort, épargne-nous ta soif de sang. Souhaitez-vous stopper les violences, main armée des affres de la galère. Trop de personnes en proie à l'errance. Faites en sorte qu'il y ait moins de misère.